Voilà, donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Ben, ce dimanche, je nous invite pour une dernière fois à poursuivre donc l'aventure avec le juge Samson dans le livre des juges. On a eu déjà donc deux prédications et donc là aujourd'hui c'est la conclusion. On a vu que cet homme extraordinaire a été consacré à Dieu dès le sein de sa mère et avait pour mission de commencer à délivrer Israël de la main des Philistins. On a vu la deuxième fois qu'il s'est marié et qu'il a commencé donc son œuvre, je dirais, de conflit avec les Philistins. Et à la fin du chapitre 15, donc histoire qu'on ne lira pas, Samson a encore une victoire éclatante sur les Philistins. Il nous est dit qu'il tue 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Extraordinaire. Et là, on est un peu surpris à la fin du chapitre 15, le verset 20. Donc, juge, chapitre 15, verset 20. Il est dit, « Samson fut chef en Israël pendant 20 ans, à l'époque où les Philistins dominaient le pays. » Samson fut chef pendant 20 ans, voilà une phrase qui sonne un peu comme une conclusion, alors que l'histoire de Samson n'est pas encore finie. J'en déduis là que l'auteur va nous dresser dans ce chapitre 16 que nous allons lire en entier, une deuxième partie de la vie de Samson. Jusque-là, c'était une première partie, plutôt une ascension, une période florissante de Samson. Et là, on va lire un peu une partie moins florissante, une partie moins victorieuse peut-être dans la vie de ce juge Samson. Donc on lit le chapitre 16 en entier. C'est un peu long, donc il va falloir s'accrocher. On y va. Samson se rendit à Gaza. Il y vit une prostituée et entra chez elle. La nouvelle se répandit parmi les gens de Gaza qui se trouvaient dans la ville. Pendant toute la nuit, ils gardèrent les issues et firent le guet à la porte de la ville. Cependant, il se tint tranquille pendant la nuit, se proposant de le tuer au point du jour. Mais Samson resta couché jusqu'au milieu de la nuit seulement. À minuit, il se leva. Arrivé à la porte de la ville, il empoigna les deux bâtons avec les deux montants et les arracha avec la transverse, puis il chargea le tout sur ses épaules et le transporta jusqu'au sommet de la colline en face d'Hébron. Plus tard, Samson tomba amoureux d'une femme nommée Dalila, qui habitait dans la ville de Sorek. Les princes des Philistins vinrent la trouver et lui dirent, « Enjôle-le et tâche de découvrir d'où lui vient sa force extraordinaire et comment nous pourrions réussir à le ligoter pour le maîtriser. Chacun de nous te donnera 1100 pièces d'argent. » Dalila demanda à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où te vient cette grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te maîtriser ?» Samson lui répondit, « Si on me lie avec 7 cordes fraîches qui n'ont pas encore séché, je perdrai ma force et je deviendrai comme n'importe quel autre homme. » Les princes des Philistins procurèrent à Dalila 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches et elle ligota Samson avec ses cordes, tandis que les hommes se tenaient cachés chez elle dans la chambre. Tout à coup, elle s'écria, « Samson, les Philistins t'attaquent !» Il rompit les cordes comme se rompt une mèche d'étoupe quand elle a pris feu. Ainsi, on ne découvrit pas le secret de sa force. Dalila dit à Samson, « Voici, tu t'es moqué de moi et tu m'as raconté des mensonges. Maintenant, dis-moi donc, je te prie, avec quoi l'on pourrait te lier ?» Il lui répondit, « Si on m'attache fortement avec des cordes neuves qui n'ont jamais servi, je perdrai ma force et deviendrai comme n'importe quel autre homme. » Alors Dalila prit des cordes neuves dont elle le ligota, puis elle s'écria, « Samson, les Philistins t'attaquent !» Des hommes se tenaient de nouveau cachés dans la chambre, mais il rompit les cordes comme un fil et les fit tomber de ses bras. Dalila dit à Samson, « Jusqu'à présent, tu t'es moqué de moi. Tu ne m'as raconté que des mensonges. Dis-moi enfin avec quoi il faut te lier. » Il lui répondit, « Si tu tisses les 7 tresses de ma tête dans la chaîne d'un métier à tisser et que tu les fixes au moyen d'une cheville, je perdrai ma force et je deviendrai comme n'importe quel autre homme. » Alors elle endormit, tissa les 7 tresses de sa chevelure sur la chaîne de métier à tisser et les fixa avec la cheville. Puis elle s'écria, « Samson, les Philistins t'attaquent !» Il se réveilla de son sommeil et arracha la cheville du métier avec la chaîne. Alors elle lui dit, « Comment peux-tu prétendre que tu m'aimes alors que tu ne me fais pas confiance ? Voilà 3 fois que tu t'es moqué de moi et que tu m'as refusé et que tu as refusé de m'indiquer d'où venait ta force extraordinaire. » Tous les jours, elle le harcelait par ses paroles et le poussait à bout par ses instances. Excédé à en mourir, il finit par lui révéler son secret. « Jamais encore, lui dit-il, mes cheveux et ma barbe n'ont été coupés, car j'ai été consacré à Dieu dès le sein maternel. Si l'on me rasait la tête, ma force m'abandonnerait, et je deviendrais comme n'importe quel autre homme. » Dalila comprit qu'il lui avait révélé son secret. Elle fit prévenir les princes des Philistins en leur disant, « Venez, car cette fois, il m'a dit son secret. » Ils se rendirent chez elle avec l'argent promis. Elle endormit Samson sur ses genoux, puis appela un homme pour lui couper les 7 tresses de sa tête. Ainsi, elle commença à le maîtriser, car il perdit sa force. Puis elle cria, « Samson, les Philistins t'attaquent !» Il se réveilla de son sommeil et se dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai !» Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était détourné de lui. Les Philistins se saisirent de lui et lui crevèrent les yeux. Puis ils l'emmenèrent à Gaza, le ligotèrent avec une double chaîne de bronze et lui firent tourner la meule à grains dans la prison. Après avoir été rasé, ses cheveux commencèrent à repousser. Les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un sacrifice important à Dagon, leur dieu, et pour se livrer aux réjouissances. Ils disaient, « C'est notre Dieu qui a livré entre nos mains notre ennemi Samson. » Quand le peuple le vit, il loua son Dieu en disant, « C'est notre Dieu qui a livré entre nos mains notre ennemi qui ravageait notre pays et qui a fait tant de victimes parmi nous. » Comme ils étaient en joie, ils s'écrièrent, « Appelez Samson, qu'il nous divertisse !» Ils firent sortir Samson de la prison et il dut se livrer à des pitreries devant eux, puis ils le placèrent entre les colonnes du bâtiment. Alors Samson demanda au jeune homme qui le conduisait par la main, « Guide-moi, fais-moi toucher les colonnes qui soutiennent l'édifice pour que je puisse m'appuyer. » Or le bâtiment était rempli d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins s'y trouvaient et sur la terrasse il y avait 3000 personnes environ, hommes et femmes, qui regardaient Samson les amuser. Samson pria l'Éternel et dit, « Seigneur Éternel, je te prie, interviens à ma faveur. Rends-moi ma force une dernière fois, ô Dieu, pour que je me venge en une fois des Philistins pour la perte de mes 2 yeux. » Il toucha les 2 colonnes centrales qui soutenaient l'édifice et s'arc-bouta contre elles de la main droite contre l'une et de la main gauche contre l'autre. Puis il dit, « Que je meure avec les Philistins. » Puis il poussa de toutes ses forces et le bâtiment s'écroula sur les princes et sur toute la foule qui s'y trouvait. Ainsi, il fit périr plus de monde par sa mort que de son vivant. Ses frères et tous les siens descendirent pour emporter son corps et pour l'ensevelir entre Tsoréa et Eshtaol, dans le tombeau de Manoa, son père. Il avait été chef en Israël pendant 20 ans. Excusez-moi, un peu enrhumé. Voilà, donc, chapitre un peu long, mais qui nous relate les derniers faits marquants de la vie de Samson. Le chapitre se divise, je dirais, en 3 grandes parties. La première partie va du verset 1 au verset 3 du chapitre 16, où là, Samson nous est présenté là comme Quelqu'un, je dirais, qui n'a peur de rien. Voilà Samson au verset 1 qui se rend à Gaza, au cœur même d'une des villes les plus puissantes des Philistins. Il va chez qui ? Chez une prostituée. On est surpris de la part d'un homme consacré à Dieu de le retrouver là, chez une prostituée. Mais on aurait tort d'en déduire qu'il était vicieux ou pervers, parce que les prostituées avaient un avantage, c'est que leur maison était ouverte à tous et les maisons des prostituées étaient à l'écart. Du reste, on se rend compte que les espions en Josué chapitre 2, vous pouvez le lire, les espions qui sont venus espionner la terre d'Israël ont commencé par coucher chez la prostituée Rahab. Il est donc là dans un lieu stratégique où il est sûr de ne pas être dérangé. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il est là tranquillement pendant la nuit. Et le verset 3 nous dit, arrivé à la porte de la ville, donc à minuit, il empoigne les deux bâtons avec les deux montants et les arrache avec la transverse qui tient les deux. Il les charge sur son épaule et monte sur une colline. Extraordinaire. Quand je lis ça, je me dis, voilà quelqu'un qui n'a peur de rien. Et décidément, les Philistins ne peuvent pas le battre. Voilà qu'il vient les narguer au cœur même de leur forteresse. Il empoigne la porte, des grosses portes, et il les montre jusqu'à la colline, en face d'Hébron, comme pour les montrer aux Israélites, en disant, venez maintenant, l'ennemi est offert à nous. Quelle force! Quelle démonstration de puissance! Malheureusement, on se rend compte dans ces versets que, encore une fois, comme on l'a lu avant, pas de réaction de la part des Israélites. Samson est un juge qu'on trouve assez seul. Voilà qu'il livre là l'ennemi sur un plateau et personne ne réagit. J'en déduis que là, le peuple d'Israël est arrivé à un point où il n'y croit plus. Ça ne sert à rien de se battre. Il y a des moments comme ça dans la vie. Dieu a promis la paix. Jusque-là, ils ont eu quand même beaucoup de guerres. Dieu avait promis que cette terre leur appartiendrait. Jusque-là, ils ont dû composer quand même avec beaucoup de tribus qui ont résisté. Peut-être nous aussi, on écoute les promesses de l'Éternel qui nous dit que si on met notre confiance en Jésus, notre vie changera. Monique a évoqué ce chant tout à l'heure. Une nouvelle création. On s'accroche à des promesses de Dieu, mais qui ne se réalisent pas toujours au moment où on les attend. Et on finit par ne plus croire aux promesses de Dieu. On finit par ne plus croire ce que Dieu dit. Et on finit par ne plus croire en Dieu. Voici un peu l'état du peuple d'Israël à ce moment-là. Samson leur livre l'ennemi, les Philistins, sur un plateau. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Absolument aucune réaction. Le verset 4 nous dit, plus tard, on ne sait pas combien de temps après, Samson tomba amoureux d'une femme nommée Dalila. Plus tard, Samson tomba amoureux d'une femme nommée Dalila. Je me suis dit que là, Samson a fait ce qu'il a pu. Probablement déçu par ses compatriotes, on arrive là au verset 4, à un moment de la vie de Samson où il va commencer à penser à lui-même. Il a fait ce qu'il a pu. Et là, il va penser à lui. Il va se faire plaisir. On le voit là tomber amoureux. C'est la première fois. La fois où il épouse la Philistine, il est dit que c'est l'Esprit de l'Éternel qui le pousse à agir. Mais là, nulle trace de l'Esprit de l'Éternel. Il tombe amoureux. Et là, pour la première fois d'ailleurs, on cite le nom de la jeune femme dont il tombe amoureux. Dalila. Dalila qui veut dire frêle, fragile, menu. Donc, qui fait contraste avec certainement Samson qui devait être quand même assez costaud. On se rend compte aussi qu'il n'est plus question là de mariage. On ne voit aucune trace des parents de Samson pour donner leur avis, des conseils. Là, Samson se retrouve seul avec la femme qu'il aime. Il va prendre du temps pour lui. Peut-être que des fois, c'est ce qu'on vit aussi. Peut-être que des fois, on en a marre de ne pas être écouté. À la maison, au travail, dans la famille, par les amis, ou même, peut-être, à l'église. Personne ne m'écoute, personne ne me suit, personne ne pense à moi. Eh bien, je vais penser à moi. Je vais prendre du bon temps pour moi. Je le mérite bien moi aussi. Et là, Samson tombe amoureux et il est dit tout de suite au verset suivant que les princes des Philistins vinrent trouver Dalila pour lui proposer de l'argent. Je vois que les Philistins ont compris que par la guerre, ils n'y arriveront pas. Si Samson est tombé amoureux d'une femme, peut-être que ça peut nous aider, pense-t-il. Et on pense au fait que Samson avait déjà été mis en difficulté par une femme, la Philistine, qui avait réussi à lui faire avouer la clé de l'énigme du lion et du miel. Certainement, les Philistins y pensent et se disent « Ah, tiens, encore une nouvelle femme dans sa vie. Bon, il y a peut-être là quelque chose qui peut nous aider à enfin mettre la main sur son pouvoir. » Et là, il propose une somme d'argent qui est colossale à Dalila. C'est difficile de faire l'équivalent de nos jours, mais dans la Bible de Semeur, ils disent que ce serait le prix équivalent de plus de 275 esclaves. Bon, il n'y a plus d'esclaves de nos jours, mais quand même, ça nous donne une idée de la somme colossale qu'il propose à Dalila. Et on se rend compte que Dalila accepte cette proposition. Et là, jusqu'à la fin du verset 17, on est témoin là d'une espèce de bras de fer entre Samson et Dalila, mais qui dans la tête de Samson ressemble un peu à un jeu amoureux. Dis-moi ton secret, non je ne le veux pas, attrape-moi, non je ne veux pas. Samson, lui, il est peut-être dans son jeu amoureux. Dalila, elle a quelque chose en tête. Son but, ne pas laisser passer cette somme colossale qu'elle peut avoir en livrant Samson aux Philistins. Samson va commencer par prétendre que si on le lit avec des cordes fraîches, il perd sa force. Ensuite, au verset 12, il va dire à Dalila, si on me lit avec des cordes neuves, je perds ma force. Et enfin, au verset 14, il va dire, si on attache mes tresses dans un métier à tisser, je perds ma force. Trois mensonges, trois fausses pistes. Mais quand même, Dalila commence à gagner du terrain et Samson commence à céder. Samson commence à céder du terrain. Et on voit que la stratégie de Dalila paye. Elle paye parce qu'elle touche le point sensible. Elle va lui dire à Samson au verset 10, « Voici, tu t'es moqué de moi, tu m'as raconté que des mensonges. » Et au verset 15, elle lui dit, « Comment peux-tu prétendre que tu m'aimes alors que tu ne me fais pas confiance ?» La vérité l'amour, la confiance. Voilà ce que Dalila va réclamer de Samson. C'est intéressant ce genre de mots dans la bouche de quelqu'un qui est là en train de mentir depuis le début. Voilà que Dalila, la menteuse qui a son projet en tête de le livrer contre une grosse somme d'argent, lui réclame la vérité, l'amour, des preuves d'amour, des preuves de confiance. Peut-être en tant que chrétien, on vit de telles choses dans notre quotidien. Des personnes autour de nous qui exigent de nous des preuves d'amour, de confiance, des preuves de vérité, mais qui nous obligent à sacrifier ce qu'on a de plus précieux, notre foi en Dieu. Samson n'a pas retenu la leçon de ce qu'il a vécu avec sa première épouse, la Philistine. Encore une fois, il va céder. Il va céder et il va finir par avouer son secret. Et on a cette belle confession au verset 17, parce que de toute l'histoire qu'on a lue depuis le début de Samson, c'est la première fois que Samson lui-même de sa bouche va raconter un peu son histoire, sa force, l'origine de sa force. Et qu'est-ce qu'il dit ? Jamais encore, lui dit-il, mes cheveux et ma barbe n'ont été coupés, car j'ai été consacré à Dieu dès le sein maternel. Si l'on me rasait la tête, ma force m'abandonnerait et je deviendrais comme n'importe quel autre homme. J'ai été consacré à Dieu depuis le sein de ma mère. Jamais un rasoir n'est passé dans mes cheveux et dans ma barbe. Voici donc Samson qui dévoile ce secret qu'il a gardé précieusement depuis le début. Le secret de sa force lui vient de sa consécration à Dieu. La force de Samson en tant que telle, on l'a vu, nous, dans les paragraphes, dans les chapitres précédents, ne réside pas en tant que tel dans ses cheveux, puisqu'on a vu précédemment que c'est quand l'Esprit de l'Éternel fond sur lui qu'il a la force. Mais quand même, les cheveux et la barbe sont le signe de sa consécration, le signe de son engagement, le signe de sa promesse de demeurer consacré à Dieu. Et on est quand même surpris de voir que Samson fait tellement confiance à Dalila qu'il prend le risque de lui confier un tel secret. Peut-être ce passage peut nous interroger sur à qui est-ce que nous donnons notre confiance? À qui est-ce que nous donnons notre confiance? Le secret avoué, les cheveux coupés, évidemment, Samson perd sa force. Il est dit donc, à partir du verset 20, elle s'écria, « Samson, les Philistins t'attaquent. » Il se réveilla de son sommeil et se dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était détourné de lui. L'Éternel s'est détourné de Samson parce qu'il n'a pas pris assez au sérieux sa consécration à Dieu. On a vu que au début de l'histoire de Samson, il manquait quelque chose qu'on trouve dans l'histoire des autres juges. C'est que le peuple crie à Dieu et Dieu suscite un libérateur. Mais là, à l'époque de Samson, point de cri. C'est Dieu lui-même qui juge la situation des Israélites assez sérieuse pour susciter un libérateur. Et là, je me dis, quand je lis cette histoire, je me dis, mais là aussi, Samson, peut-être qu'il a oublié quelque chose. Il a oublié, dans les bras de la belle Dalila, de crier à Dieu. Il a oublié de crier à Dieu et de dire, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Peut-être c'est un cri qu'on peut pousser, nous, des fois, quand on est dans des situations délicates, difficiles, où nous chancelons, où nous sommes en difficulté, où nous sentons que nous pouvons trébucher dans une situation pas conforme à la parole de Dieu. On peut faire quelque chose que Samson n'a pas fait. Crier à Dieu et lui dire « Viens à mon secours. Qu'est-ce que je fais là, chez Dalila ?» Voilà donc Samson livré aux Philistins, dont on va crever les yeux, qui va finir par tourner la meule de grain dans la prison, une tâche qui était donc réservée aux femmes, qui va donc maintenant être vouée à faire des pitreries devant les Philistins. Dans cette même ville où il avait démontré sa force en arrachant les portes à Gaza, ben il est renvoyé à Gaza là pour faire un peu le clown, pour divertir les Philistins. Et ces Philistins vont célébrer leur victoire en remerciant leur divinité, Dagon. Il est dit au verset 24, « C'est notre Dieu qui a livré entre nos mains notre ennemi, qui ravageait notre pays et qui a fait tant de victimes parmi nous. » Jusque-là, on n'avait pas entendu parler de leur divinité, ou alors très peu. Et là, maintenant qu'ils ont la victoire, eh bien, apparaît le dieu des Philistins. Où était ce dieu-là quand ils ont eu de multiples défaites, quand Samson les a vaincus? Où est-ce qu'il était, ce dieu-là? Eh bien, je me rends compte que les Philistins, eux, ils savent rester fidèles à leur dieu, malgré les défaites. Je vois qu'ils ont persisté, ils ne se sont pas découragés, ils n'ont pas rejeté leur dieu, malgré les défaites. Ils sont restés quand même avec ce Dieu et voilà qu'aujourd'hui, au moment de la victoire, ils le remercient. Nous, chrétiens, des fois, on est peut-être un peu prompt à nous détourner de Dieu quand ça ne va pas dans nos vies. Et là, on peut retenir cette leçon des Philistins qui, quelque part, persévèrent dans leur foi en ce faux Dieu. Mais à travers cette fidélité, ils nous donnent un exemple aussi. Et là, voilà, on s'est dit que c'en est fini pour Samson. Samson va être réduit à tourner cette meule. Lui qui était promis un destin si glorieux, le voilà là réduit quasiment à rien. Sauf que, au verset 22, les cheveux de Samson recommencent à pousser. Les cheveux de Samson recommencent à pousser. Et là, j'imagine Samson qui était abattu, découragé, hop, il recommence à avoir un peu d'espoir. Probablement qu'il se dit, si une dernière fois Dieu pouvait m'aider à avoir une victoire éclatante qui effacerait toutes mes erreurs passées. Et là, on retrouve Samson dans un face-à-face avec Dieu. Verset 28, Samson pria l'Éternel et dit, « Seigneur Éternel, je te prie, interviens en ma faveur. Rends-moi ma force une dernière fois, ô Dieu, pour que je me venge en une fois des Philistins pour la perte de mes deux yeux. Je te prie, Éternel, Seigneur Éternel, interviens en ma faveur. » Voici la Samson qui, quelque part, est comme nous, sans pouvoir particulier, sans rien maintenant, face à face avec son Dieu, et là qui pousse ce cri à Dieu, « Je te prie, interviens en ma faveur. » Effectivement, Dieu va répondre à sa prière et lui redonner la force, une force suffisante pour pousser ces deux colonnes et faire périr beaucoup plus de personnes qu'il n'en a jamais tuées tout au long de sa vie. Et la suite de l'histoire du peuple nous montre qu'après ce coup d'éclat où Samson va tuer quand même plusieurs princes, plusieurs personnes importantes, et bien les Philistins vont durcir leur attitude envers les Israélites. Et c'est ce durcissement de l'attitude des Philistins envers les Israélites qui va contraindre les Israélites à réagir enfin, je dirais. Enfin, ils vont réagir parce que les Philistins vont appliquer sur eux une domination encore plus forte. Et là, je me dis à la fin de ce chapitre que finalement, le but de Dieu est atteint. Malgré les forces et les faiblesses de Samson, le but, le plan de Dieu, le projet de Dieu s'accomplit toujours. Amen. J'aimerais qu'on tire des leçons de la vie de ce juge Samson, sans nous avoir rappelé que pour nous aussi, il y a 2000 ans, Dieu a suscité un libérateur. Ce libérateur, ce sauveur, comme on l'a chanté, comme on l'a prié, comme on l'a lu, c'est Jésus-Christ. Ce Jésus aussi, comme Samson, a été trahi. Il a été condamné. Il a été mis à mort, lui. Mais c'est par sa mort qu'il a accompli la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé. Payer le prix du salut de l'humanité. Être l'agneau offert en sacrifice qui ôte le péché du monde. Ce Jésus-Christ qui est venu et qui est mort à la croix a pris ma place, a pris ta place, a porté sur lui la condamnation que nos péchés, que nos fautes auraient mérité de la part de Dieu. Mais il n'est pas resté mort. Il est ressuscité. Il nous dit dans sa parole qu'il a vaincu le monde. Et depuis sa mort et sa résurrection, tous ceux qui placent leur foi, leur confiance en Jésus, peuvent aussi avoir une belle confession, comme celle qu'a faite Samson. Celui qui place sa confiance en Jésus peut se présenter comme un enfant de Dieu, un élu de l'Éternel. Celui qui place sa confiance en Jésus peut dire qu'il sera auprès de Dieu pour l'éternité, parce que Jésus nous réserve une place auprès de son Père pour l'éternité. Nous pouvons, comme Samson, confesser cela et vivre une vie consacrée à Dieu, où le Christ est notre Seigneur, celui qui nous conduit, celui qui nous dirige. Le confesser, c'est bien. Mais quel prix est-ce qu'on accorde à cette confession? Si tu dis que tu es chrétien, que tu es consacré à Dieu, est-ce que cela est assez important pour toi, pour ne pas risquer de le perdre, comme a fait Samson? On l'a chanté, te connaître, il n'y a rien de meilleur. On l'a chanté tout à l'heure, n'est-ce pas? Te connaître, Seigneur, il n'y a rien de meilleur. Est-ce que c'est bien le cas pour nous en ce matin? On a vu combien Dalila a fait ce qu'elle a pu pour des cycles d'argent, pour une somme colossale. Et on a vu un Samson qui n'a pas accordé le prix qu'il fallait, l'importance qu'il fallait à sa consécration à Dieu. Qu'est-ce qu'il en est de nous en ce matin? En tant que chrétiens, nous demeurons centrés sur Jésus. C'est lui, par sa mort et par sa résurrection, qui nous acquiert la vie éternelle. Cependant, nous pouvons tirer des leçons de cette histoire de ce juge Samson. La Bible, en Hébreux 11, nous cite Samson comme un exemple, comme un modèle. Comme un exemple, un modèle de foi. Il est vrai que nous n'avons pas à suivre son exemple dans tout ce qu'il a fait ou tout ce qu'il n'a pas fait. Cependant, c'est par les leçons de sa vie que nous pouvons aussi être, je dirais, enseignés et encouragés à mener une vie qui reste fidèle, qui demeure fidèle à Dieu. Comme Samson, nous pouvons dire, notre force est en Christ. Non pas dans nos cheveux, non pas dans un quelconque signe physique ou corporel, mais notre force est en Christ. Et notre force, c'est la foi, c'est notre foi en Jésus-Christ. Voilà, je prie que cette histoire de Samson nous aide à éviter des situations ou des relations qui mettent en péril notre relation, notre communion avec notre Seigneur. Prions. Oui Seigneur, ce que tu as accompli pour nous à la croix mérite tous nos sacrifices. Oui Seigneur, parce que tu es pour nous désormais notre trésor le plus précieux. Parce que tu as accompli pour nous ce qui est impossible à l'homme. Nous acquérir le salut et la vie éternelle. Aide-nous à tirer les bons enseignements de la vie de Samson. Aide-nous à crier à toi, ô Éternel, viens à notre secours quand il le faut. Aide-nous aussi à nous présenter devant toi quand nous trébuchons et comme Samson, à te dire, ô Seigneur, interviens une nouvelle fois en notre faveur. Toi seul est notre force et notre salut. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen.